Chez Orange, on sait qu'après... C'est sympa de continuer sur cette lancée. Jusqu'au 21 janvier, profitez de promos sur une large sélection de téléphones Samsung, dont 520 euros d'économie sur le Galaxy S25 Ultra, sans forfait, sans engagement. Orange est là. Offre soumise à condition, valable en France métropolitaine. 420 euros de remise immédiate et 100 euros de bonus reprise pour l'achat d'un Galaxy S25 Ultra. Conditions détaillées sur orange.fr.
Je travaille dans le social actuellement, au niveau de ce logement. D'accord. Au niveau des HLM, je suis derrière.
Ouais.
Donc, à côté de ça, je me dis simplement, quand tu vois qu'on a des... Il y a des gens qui sont... C'est vrai, on parle souvent... Là, je vais changer un peu de sujet. Quand tu vois très souvent qu'il y a des gens qui critiquent les personnes qui sont RSA, mais moi, de mon côté, là, ce que je fais, là, comment te dire ça? Quand tu loges des gens qui n'ont pas les moyens de se loger, tu te dis simplement, ces gens-là, ils n'ont pas demandé à être comme ça. Tu comprends?
Oui, je suis d'accord avec toi.
Il y a ça là-dedans. Mais après, tu as des gens qui en profitent du système aussi. Il y a ça aussi.
Oui.
Mais il y a très peu. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais là, aujourd'hui, quand je me trouve seul comme ça, je me suis dit, ah, écoute, il faut arrêter un coup, quoi.
Oui, c'est parce que là tu ne travailles pas, du coup.
Non,
il en a arrêt maladie,
mais parce qu'il nous avait dit, alors je ne sais pas si vous aviez suivi Marichaud,
oui,
mais
qu'il avait bu un peu.
Voilà, bon, qu'il a eu quelques petits excès qui ont fragilisé sa santé. Et aujourd'hui, il a des rendez-vous médicaux il doit faire le point un peu sur sa situation médicale.
Il a fait un transfert entre son ex et sa bouteille d'eau.
elle se moque, hein, Bruno.
Non, mais tu rigoles comme ça, mais c'est vrai, hein.
Et dites-moi, Marie-Jo...
T'inquiète, je suis rigolée, je connais le truc.
Non, mais tu me fais rigoler parce que moi, je suis franc là-dessus.
Marie-Jo, vous revenez un peu à La Réunion ou pas du tout?
Moi, j'étais là, ça fait 10 ans que j'avais pas été parce que j'avais acheté ma maison, donc j'avais des petits travaux à faire pour remettre à mon goût. Donc là, mon fils, il voulait y aller parce que lui, il a eu sa petite qui a 3 ans cette année.
Ouais.
Il voulait la faire connaître à ma mère qui est retournée là-bas à l'âge de la retraite, quand elle n'allait pas rester en appartement.
Votre mère était à La Réunion?
Ma mère était à La Réunion, si vous voulez. Moi, je suis venue la première de la famille parce que je suis orpheline depuis l'âge de 9 ans, hein, de mon père. Donc, je suis venue la première et puis après, j'ai ramené mon frère, j'ai ramené mes deux sœurs qui a ramené ma mère.
D'accord. Et donc, vous avez l'occasion de revenir probablement à La Réunion.
Oui. Ben, j'ai acheté mon terrain. J'ai acheté un terrain à mon oncle là-bas et puis j'ai un terrain d'héritage de mon père qui tu vas pas partager, quoi. Mais j'ai toujours l'occasion d'y retourner quand je veux. À quel endroit? Dans les hauts de la rivière Saint-Louis.
Ah, c'est la rivière Saint-Louis. En plus, je travaille Saint-Louis en plus, pour te dire. Hein.
Alors, moi, ce que je vous propose, regardez Marie-Jo Bruni, je vous propose que hors antenne, le magicien Florian vous communique vos coordonnées, si vous en êtes d'accord tous les deux. Hein.
Est-ce que vous en êtes d'accord?
On va donner à Bruni votre numéro de téléphone. Et ce que je vous propose, c'est d'abord que vous restiez en contact, que vous puissiez parler un petit peu, parce que vous êtes réunionnais tous les deux, et c'est plutôt sympa de parler de cette belle région, de vos origines. Et puis surtout, Bruni a peut-être l'occasion de venir là en métropole parce qu'il veut peut-être aller à Cuba, donc il réfléchissait, c'est ce qu'il nous disait tout à l'heure. Vous avez l'occasion de venir quand même dans votre région natale. Et donc, peut-être que voilà, vous pourriez vous rencontrer et puis devenir amis.
Ben oui. Et puis peut-être que je pourrais lui donner deux, trois petits coups de pied et puis le faire avancer.
Oui, c'est ça, Marie-Jo. C'est vrai,
je pourrais être... Bonnie, il pourrait être autre sœur.
Non.
En tout cas, Bruni a une qualité.
Tu dis que t'es toujours à l'écoute des autres et moi, dans mon métier, je n'ai fait que ça.
Bah oui, mais vous avez tous les deux une très très grande qualité qui est pour moi la plus belle des qualités. Je le pense, en tout cas, je le ressens. C'est votre gentillesse à tous les deux. Et franchement, ça fait du.
Ben là, j'ai retrouvé le sourire ce soir parce que ben voilà, j'ai un peu de
réconfort. Bon, ben écoutez, voyez.
Je te dis franchement, oui, c'est la vérité.
Ouais. Je suis contente sur moi, j'ai pu t'apporter ça ce soir, que tu finis l'émission sur un sourire au lieu d'un sanglot. C'est waouh, j'ai gagné ma vie, moi.
Ça a commencé par un sanglot et ça finit par un sourire. La même lettre qui commence les deux mots. Merci, voilà. Marie-Jo. Voilà. Merci infiniment, Marie-Jo. Gardez et votre joie de vivre.
Moi, le plus beau cadeau aussi de ce soir, c'est d'avoir pu discuter avec vous, Roland. Je vous adore.
Heureusement
que Roland est là.
Il a le sourire dans la voix quand il parle, quoi, en fait. Et j'adore ça.
Bon, écoutez, vous aussi, vous l'avez. Vous voyez, c'est contagieux, mais vous aussi, vous l'avez.
Mais oui.
Marie-Jo, merci beaucoup. Oui. Bruni, je suis content d'entendre votre sourire. Je suis content peut-être que vous allez vous coucher après, vous allez pouvoir dormir un petit peu. Et puis demain, quand vous ferez cette marche, quand vous vous réveillerez et que vous irez marcher, vous allez penser à Marie-Jo. Ah. Vous allez penser à notre discussion, à notre échange. Ça va vous accompagner.
Tout à fait.
Et puis, ça va peut-être vous donner de la force. C'est ce que je vous souhaite. D'accord ?
C'est tout à fait ça.
Donnez-nous des nouvelles tous les deux. D'accord ?
Ok.
Il n'y a pas de souci. On fait comme ça.
Je peux me permettre de vous embrasser tous les deux. Je vous serre dans mes bras. Merci.
Allez, c'est pareil pour vous. Et merci beaucoup.
À bientôt. Au revoir.
Et à Marie-Jo aussi. Hein.
va, c'était Alain Champfort et on va retrouver tout de suite un nouveau témoignage de la Libre Antenne sur Europe 1 en compagnie de Roland Pérez. Bonne nuit à tous.
Europe 1, la Libre Antenne, Roland Pérez.
Bonsoir Jean-Louis.
Oui, bonsoir Roland.
Merci d'être avec nous pour débuter cette Libre Antenne sur Europe 1.
Merci de m'accueillir aussi.
Quelle histoire vous avez vécue. Quelle renaissance à la vie. Vous allez nous expliquer comment, en voulant t'entendre vous donner la mort, vous êtes devenu aveugle. Et pourtant, cet aveuglement, j'ai envie de dire, oui, vous a redonné le goût de la vie.
Ah oui, totalement, oui.
On va commencer par le début, alors.
Oui, c'est vous, oui.
Vous êtes né en 1958, dans une petite ville du nord de la France, et qu'est-ce qui se passe ?
Oui, en fait, j'ai eu une enfance un peu compliquée, et surtout, à l'âge de 16 ans, j'ai dépendu ma mère. Alors,
Dépendu, on entend bien dépendu, c'est-à-dire que votre mère s'est donné la mort par la pendaison.
C'est ça, ouais. Oui. Et puis, ça a impacté quand même mon enfance, mais je l'ai toujours refusé, ça. J'ai toujours refusé que ça allait altérer ma vie. Et donc, j'ai continué, et puis j'étais en pleine adolescence, donc évidemment, je refusais tout. J'étais en colère sur tout le monde, voilà. Mmh. Et puis, un peu avant 18 ans, j'ai quitté le domicile familial.
Mais vous saviez pourquoi, votre maman s'était donné la mort ? Elle était très dépressive, elle avait eu un...
Elle était effectivement très dépressive. Mon père ne l'a pas véritablement choyé, c'est un peu de sa faute, Et surtout, ce qui a été très difficile pour moi, c'est que j'avais trois sœurs aînées, j'étais le dernier, et c'était pas tellement méchant de leur part, elles étaient aussi jeunes, mais quand j'ai essayé de donner un petit peu de douceur à ma mère, elle me ridiculisait un petit peu, Mais c'était pas méchant, ça. C'était surtout
du genre un peu le fils à sa maman.
Oui, voilà, c'est ça. Mmh, oui. Mmh. Et donc,
c'était un choc. À 15 ans, c'est le choc quand même, parce que vous vous attendiez pas du tout à ce que votre maman attente à sa vie, et surtout dans ces conditions très violentes. Donc vous en gardez un choc profond quand même si vous ne l'assumez pas, vous ne le voyez pas.
Je peux pas vraiment le dire. À cette époque-là, je le refusais, Mais enfin bon, ça a vraiment impacté ma vie, C'est clair. Maintenant je le dis, c'est à 67 ans, je dis quand même que ça a eu un impact sur ma vie, Mais je le refusais. J'étais véritablement ado, donc en fait, pour le refuser, j'étais en colère, Je refusais tout, Et d'ailleurs, ma scolarité en a pris un coup aussi, Je me suis fait virer carrément du lycée, parce que j'étais incorrigible,
C'est-à-dire que c'était 15 ans, c'est quand même, quoi qu'on en dise, c'est extrêmement violent. Vous restez donc avec vos trois sœurs et votre papa ?
Oui.
Et qui s'occupe de vous ? Votre papa, quand même, est présent ?
Pas trop, non, c'est une de mes sœurs. Une de mes sœurs aînées, avec qui j'ai toujours eu de très bons rapports, Elle a pris un peu le rôle de ma mère, c'était pas toujours très facile,
Donc vous êtes quand même un peu livré à vous-même.
Oui, quand même. De toute façon, à la fin, à 17 ans, je faisais l'école buissonnière, J'allais plus en cours, je faisais plus rien, Je me baladais. Et puis, à l'âge de 17 ans et demi, j'ai carrément quitté le domicile. Je me suis enfoui.
Vous avez été où ? Comment vous avez vécu ?
J'étais à Paris, J'étais à Paris et j'ai eu la chance... j'avais rencontré une personne dans une boîte, qui bon, on commençait à discuter, et puis, bah, tiens, tu me payes un verre. Je n'avais qu'à l'époque 5 francs, quoi, en fait. Hein. Mm-hmm. Je lui ai payé un verre, et puis je lui ai dit, bah, je peux pas, moi, je peux pas en boire, quoi, en fait. Bah, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Bah, voilà, je dis, je me suis sauvé de chez moi. Et ben, bah, lui, installé des téléphones à Paris, bah, du coup, si tu veux, tu me suis, et puis demain, t'as un boulot. À l'époque, évidemment, c'était assez facile de trouver un boulot. Et bah, le lendemain, je me trouvais à Paris, en banlieue parisienne, quoi, à Montfort-l'Amaury, exactement. Et mmh. puis, bah, j'ai commencé à installer des téléphones.
C'est une banlieue chic.
Comment ?
C'est une banlieue chic.
Ah oui, Montfort-l'Amaury, oui.
Très chic. Oui. Et donc, vous commencez votre vie professionnelle très tôt, en fait. Vous avez arrêté l'école, vous êtes livré un peu à vous-même, vous êtes parti de chez vous. Et donc, à 17 ans, vous commencez ce métier d'installateur de téléphone.
Oui, c'est ça. Mm-hmm. Et puis, j'ai eu plaisir à faire ce métier. J'ai eu vite des responsabilités. Au bout de près de 2 ans, j'étais presque chef d'équipe, quoi, en fait.
Vous étiez heureux d'avoir fui de chez vous, finalement, ce climat un peu anxiogène que vous aviez connu, ces difficultés, ce suicide de votre maman qui était terrible. Donc vous étiez quand même heureux d'avoir fui tout ça.
Ah oui, tout à fait. Oui,
d'avoir mis à distance tout ça, oui.
Mais oui, c'est sûr. Ça, c'était... c'était pour moi une liberté, quoi, en fait. Hein. Mmh.
Voilà. Et puis
ensuite, bon, à l'époque, on faisait encore notre service militaire. J'ai été un an à l'armée. Enfin, j'ai été aussi un an à l'armée. Je suis allé à l'armée plus tôt que prévu. Enfin, plutôt, j'avais pas devancé l'appel.
Oui. Ouais.
Parce qu'en fait, mon père avait une société de confection.
Ouais.
Et bah, il m'a contacté pour savoir si je voulais la reprendre, quoi.
Ah.
Et ça a été l'erreur de ma vie. Ça a été véritablement l'erreur de ma vie parce qu'en fait, j'avais une certaine fierté. Je me disais peut-être que chef d'entreprise c'était mieux que chef d'équipe pour une installation de téléphone, quoi, en fait.
Et oui, et puis c'était quand même une confiance que votre père vous faisait en vous confiant au début les rênes de son entreprise, et qu'il avait confiance en vous.
Oui, c'était quand même une confiance, c'est sûr, c'était une confiance. Donc, ben, je suis parti à l'armée. Alors, l'armée, ça a été aussi pas mal parce que j'ai commencé à comprendre la vie. Enfin, d'ailleurs, une anecdote, c'est que j'étais avec Didier Bourdon, des inconnus.
Ouais.
Et on a fait un spectacle ensemble, à deux.
D'accord.
À l'époque.
Donc, ce sont de bons souvenirs, du coup.
Oui, ce sont des bons souvenirs.
Oui, et puis c'était vous qui aviez échappé un peu aux règles, vous étiez un peu livré à vous-même. C'est vrai que là, vous aviez de la rigueur, vous aviez des règles à respecter, des horaires.
Oui.
Oui. Ça vous donnait un cadre que vous n'aviez pas eu, finalement. Oui.
Oui, c'est sûr. Et puis, donc, bon, par la suite, je suis rentré dans la société de mon père, et pendant, je ne sais plus exactement.
Vous aviez quoi, 20 ans à peu près, 19 ans, 20 ans ?
Oui, j'avais 20 ans.
Voilà.
C'était en 78.
C'était une grosse entreprise ?
Ben, en fait, il y avait à peu près 50 salariés.
Ah oui, quand même, oui.
Oui, oui, et puis il y avait beaucoup de... On avait beaucoup de... Comment dirais-je je trouve le bon terme, là. D'entreprises qui travaillaient pour nous, quoi.
Des prestataires, oui, d'accord. Des entreprises.
Oui, des prestataires.
Des prestataires,
c'est
ok.
C'est ça.
Donc c'était une entreprise de confection, hein ?
Oui, confection enfant.
Confection pour enfants. D'accord. Oui. Ok. C'était une marque. Vous faisiez ça à la demande pour des marques. Okay.
C'est ça. Oui. On travaillait beaucoup pour les hypermarchés. Enfin, pour la Redoute, les Trois Chiffres.
D'accord. Et vous étiez fier, visiblement.
Oui. J'étais non seulement j'étais fier. Parce qu'en fait aussi j'ai modernisé toute l'entreprise parce qu'il fallait à l'époque tout allait très vite, quoi, en fait. Alors donc j'ai modernisé, on a déménagé l'entreprise grâce à la municipalité, on a en fait étendu l'entreprise, on l'a modernisé, et puis j'ai trouvé de nouveaux marchés, j'ai
Ah oui, donc vous avez développé l'entreprise. Alors on va expliquer que vous êtes. On va expliquer pour tous les auditeurs qui viennent de nous rejoindre sur Europe 1. Donc on est avec Jean-Louis. Jean-Louis a 67 ans. Il nous appelle de la. Il nous appelle de la région Nord. C'est là où vous êtes toujours dans la région Nord. Hein
oui, j'habite Valenciennes.
Et puis Jean-Louis va nous parler de son handicap. Il est devenu aveugle par accident. Il va nous expliquer dans quelles circonstances. Et au lieu de le plonger dans le noir de la vie, eh bien, ça lui a redonné confiance dans la vie. Jean-Louis, à 15 ans, a malheureusement assisté au suicide de sa maman qui s'est pendue. Ce fut un choc qui l'a mis à distance, véritablement, parce qu'il ne voulait pas vivre avec autant de violence. Et puis, évidemment, sa vie était un peu décousue dans les années qui ont suivi. Il va partir de chez lui, trouver un premier emploi à Paris, et puis finalement son père va le rappeler pour lui proposer de venir reprendre l'entreprise familiale. Il pense que c'est une bonne idée, il pense même qu'il va retrouver confiance en lui, son père lui fait confiance, donc ça flatte un peu son ego. Et puis on en est là, il reprend l'entreprise familiale, il la modernise, et finalement, ce qu'il pensait être une très bonne idée va s'avérer peut-être pas la meilleure des idées.
Mais non, parce qu'en fait, à l'époque, y avait beaucoup de délocalisation. Donc, on n'arrivait plus à
assurer le prix. Enfin, le prix ne tenait plus.
Assurer les prix.
On n'était plus compétitif. Vous étiez plus compétitif.
Oui, voilà, c'est ça. Je trouvais pas le terme. Ouais. Nous étions plus compétitifs. Et puis, de fil en aiguille. On a perdu des marchés, il a fallu un peu licencier, et puis à un moment donné, un jour, j'ai dit, c'est plus possible. J'ai pris rendez-vous avec notre comptable, expert comptable, et puis j'ai exposé les faits, lui, il s'en rendait compte un peu. Et puis, il m'a dit, il n'y a pas encore péril dans la demeure. Mais moi, je disais, j'ai envie de dormir. J'ai envie de dormir. Parce que ce qui se passait, c'est que je ne dormais plus. Mmh. J'avais peur de m'endormir parce qu'il fallait que je me réveille le lendemain. Et je savais que ça allait être une galère.
Et votre père n'était plus du tout là? Il avait quitté totalement l'entreprise?
Il était à la retraite, mais en fait, il était. Alors, surtout, voilà, ce qui était le gros problème, c'est qu'il était encore caution de l'entreprise.
Ah, là, là.
Et moi, en fait, ce que je voulais, c'est le sauver, c'est le.
Oui, payer, c'est le libérer. Payer les banques, ouais.
Oui, c'est ça. Et on y est arrivé. Avec l'expert comptable, j'ai réussi à sauver mon père. Même à la limite, trouver du travail pour certaines des employés qui m'avaient suivi, essayer d'acquitter au maximum les fournisseurs qui avaient été aussi complices avec moi,
vous avez accordé des délais, compréhensif.
Oui, ça, les fiables, en fait. Mmh. Et puis, c'est tout. Et puis après, le dépôt de bilan s'est fait. Mon banquier et le comptable dit, on a rarement vu un dépôt de bilan aussi net, en fait. Mmh. J'avais des dettes d'État, et ça, je ne pouvais pas les honorer, en fait. Hein.
Oui, c'est souvent des dettes privilégiées, ce qu'on appelle les impôts, l'URSSAF, les choses comme ça, qu'on n'arrive pas à payer. Mais vous avez fait en sorte que vos fournisseurs soient payés, et puis les salariés ont été, de toute façon, ensuite par l'État.
Oui, c'est sûr. Voilà.
Donc, ça vous a permis de dormir?
Ça m'a permis de dormir, j'étais soulagé. J'étais vraiment soulagé. Manque de peau, mon père est décédé 6 mois plus tard. Ça aussi, ça m'a pas fait ranger. J'avais quand même des doutes sur ma compétence. J'avais quand même des doutes. J'étais obligé de faire un dépôt de bilan, quoi. C'était quand même un constat d'échec.
De toute façon, oui, mais vous avez très bien analysé la situation, hein. Tout ce qui est délocalisation, c'est toujours d'actualité. Quand on va faire fabriquer au bout du monde dans des conditions parfois, on le voit avec l'entreprise Shine aujourd'hui qui est très décriée. Oui. Mais évidemment, quand on va faire travailler des gens qu'on paye pas au juste prix, avec des horaires qui sont pas les mêmes, et qu'on a nous évidemment des lois sociales à respecter, heureusement. malheureusement, ben, évidemment, le coût n'est pas le même pour le produit. Donc, un produit qui revient à 12 euros en Chine coûte 45 euros ici, peut-être.
Exactement.
Donc, forcément, vos clients, et surtout les centrales d'achat, les supermarchés, les magasins, les chaînes de magasins, ils vont s'approvisionner là où ça coûte moins cher pour une même qualité et un même produit.
C'est sûr, c'est sûr. Et j'ai même constaté dans une centrale d'achat retrouver un des modèles qu'on leur avait confiés qui n'était pas fabriqué par nous.
Ah oui, mais ça s'appelle la contrefaçon, mais bon.
Ah ben complètement.
Mais bon, donc vous ne deviez, enfin vous vous en êtes pris à vous-même, mais en réalité vous n'étiez pas responsable. Vous avez plutôt été un bon chef d'entreprise. La preuve, vous avez réussi à payer quasiment tout le monde, donc c'est quand même très très méritant. Et alors qu'est-ce que vous avez fait après ? Parce que quelle était votre vie familiale ? Vous étiez marié ? Vous aviez des enfants ?
Alors
vous avez des enfants ?
J'étais marié et j'avais à l'époque deux enfants en bas âge.
D'accord.
D'ailleurs, je me souviens d'une fois, ma fille Colline, qui avait, je sais pas, 3, 4, 5 ans, en fait, peut-être. C'était en. Oui, elle avait 3 ou 4 ans, en fait. Et elle. Bon, j'avais encore une journée épouvantable. Enfin, je rentre, elle m'a vu, et puis elle est venue vers moi. Elle l'a senti, quoi, que j'étais pas bien. Elle m'a pris par la main. C'est bon, je
reconnais. C'est mignon, bien sûr.
Cette belle image qu'en fait, voilà.
Et donc ça, le fait d'avoir perdu cette entreprise, ça vous a replongé, ça vous a ramené à des souvenirs douloureux ?
Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Il fallait que je retrouve un emploi. C'était donc en 91. Et bon, j'avais quand même aussi je touchais un peu du chômage, puis ça allait. Et en fait, j'ai fait une erreur, c'est de refaire une société immédiatement. J'avais cette envie d'entreprendre, j'ai toujours eu cette envie d'entreprendre. Et j'ai recréé une société de communication, en fait, des supports publicitaires. Parce que à l'époque, j'avais aussi, pour retrouver un peu de trésorerie, mis en place un magasin d'usine. Et j'avais fait quand même pas mal de communications autour de ça, puis ça avait très bien marché. Ça avait permis d'éponger un peu les dettes. Donc, j'ai recréé une autre société. On trouvait des supports publicitaires.
Ouais, très bien, pourquoi pas, ouais.
Oui. Et je me suis associé avec ce que je croyais être un ami, et en fait, qui m'a un peu aussi, qui ne m'épaulait pas, et qui est parti quand.
Vous avez bougé là, attention.
Comment ?
Je vous ai à l'œil, Jean-Louis. Ah. Vous avez bougé.
Ah, excusez-moi, oui.
Non, mais ne vous excusez pas, mais c'est moi qui vous ennuie un peu, mais c'est pour vraiment que tout le monde puisse écouter. Alors, vous êtes associé avec un ami, en tout cas ce que vous croyez être un ami.
Oui, et qui m'a un peu, qui m'a un peu trahi, quoi.
Qui a abusé, oui.
Qui a abusé. Par contre, à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 93, 92, 93, c'était l'époque des pins.
Bah oui, bien sûr.
Oh là 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 là, on avait trouvé une manne, j'avais trouvé des fabricants, et puis ça marchait très bien, quoi. Et bon, puis par la suite, et puis en plus ça s'est un petit peu estompé, et la société ne fonctionnait moins, quoi. Et je commençais à avoir beaucoup de dettes, vraiment beaucoup de dettes. Cet ami est parti avec une partie de la trésorerie. Et puis j'avais aussi créé un autre support publicitaire, et j'avais commencé à mettre en place des franchises. Et en fait, je croyais que tout le monde allait me suivre. Je faisais confiance à tout le monde. Et ça a été mon erreur. Ça a été vraiment mon erreur. Faire confiance. J'avais pas assez de rigueur, quoi. J'avais pas assez de rigueur par rapport à ça.
Oui, vous aviez un bon esprit. Après, c'est pas, faut pas vous en vouloir d'avoir eu un bon esprit. C'est vrai que dans les affaires, il faut être parfois un peu retors, mais bon, c'est pas donné à tout le monde. Hein.
Et du coup, on
reprend un peu pour tous les auditeurs. Vous avez une première entreprise que vous reprenez, celle de votre papa. Après, hélas, avoir vécu un choc terrible à la disparition de votre maman par pendaison, vous vous reconstruisez avec cette société de votre papa qui, dans un premier temps, va marcher. Et puis, dans un second temps, hélas, face à la concurrence ardue de l'étranger, et la délocalisation de la fabrication, vous allez devoir déposer le bilan. Puis là, vous avez l'idée de créer une nouvelle entreprise, une entreprise d'objets publicitaires qui démarre bien. Et puis, malheureusement, un associé va un peu abuser de votre crédulité et de nouveau, il va y avoir de mauvaises affaires. Donc, vous allez redéposer le bilan de cette nouvelle entreprise. Combien de temps après, du coup ?
Alors, je n'ai pas déposé le bilan.
Ah, vous n'avez pas déposé le bilan.
Non, en fait...
Allez-y, oui.
Oui, j'ai laissé mourir, quoi, en fait.
En fait,
elle est partie avec la cécité, quoi.
D'accord.
Parce que à cette époque, bon, je commençais à accumuler des dettes. J'arrivais plus à subvenir aux besoins de ma famille. Et à l'époque, enfin, il y a quelques années auparavant, j'avais demandé, parce que nous n'étions pas mariés, j'avais dit à ma femme, écoute, je pense qu'il faut se marier, comme ça, on aura un contrat de mariage et qui vous, parce que vous savez quand même que Vendre-Brise, c'était pas, comment j'avais, excusez-moi.
Oui, la séparation des biens permettait de ne pas vous saisir tous vos biens s'il y avait une difficulté.
C'est ça. Et donc, je faisais semblant d'être heureux, je faisais semblant que tout allait bien.
Vous continuez à masquer, en fait, à masquer votre douleur, comme vous faisiez quand vous étiez jeune.
Exactement.
Vous continuiez finalement à le faire, à masquer vos tracas, la peur de l'avenir.
Oui, c'est ça, exactement. Et puis un jour, j'ai tenté de dire à ma femme, de lui expliquer mes problèmes financiers. Elle s'est mise à pleurer, ce qui est tout à fait logique. C'est pas donc j'ai tout dû. Non, mais t'inquiète pas, c'est pas trop grave. On va s'en sortir. Puis bon, je savais très bien que j'arrivais. Et surtout, je n'avais plus confiance en moi. Ça, c'était clair. J'avais plus du tout confiance en moi. Je me souviens très bien être allé chercher mes enfants à la maternelle. Quand ils m'ont vu, ils ont couru vers moi. J'ai tourné la tête parce que je pleurais. Je disais non, votre père est indigne. Votre père, c'est pas votre père, quoi, en fait, voilà. Et donc, bon, à la suite de ça, j'ai... Alors, et puis, il y a eu aussi, le 1er mai 93, il y a eu le suicide de Pierre Bérégovoy. Et ça m'a donné une idée. Enfin, j'ai dit, s'il l'a fait, je peux le faire, quoi, en fait. Enfin, bon, c'est... C'est ce qui a peut-être un petit peu...
Vous vous êtes dit, si même un homme d'État comme lui, un homme responsable, un homme à son niveau, peut en être réduit au désespoir, pourquoi pas moi ?
Oui, voilà, c'est ça. Et puis bon, et le 18 novembre 1993, je me suis mis une balle dans la tête. Bien sûr que j'ai quand même écrit une longue lettre à ma femme, lui expliquant... pourquoi je le faisais, que je partais avec les dettes et que voilà quoi, c'était. Et je me suis donc mis une balle dans la tête le 18 novembre 93.
Vous avez quoi, 35 ans ?
J'avais effectivement 35 ans, oui.
35 ans, et vous choisissez la façon de vous tuer la plus irrémédiable, normalement.
Ah, oui, tout à fait, de toute façon, oui, je pensais véritablement pas me rater.
Malgré vos enfants, parce que vous aviez des enfants, une femme, et que vous pensiez ne pas pouvoir assumer, que vous préfériez disparaître. Comment vous vous êtes procuré une arme ? C'était celle de...
C'était qu'une arme de mon père. C'est une carabine 22 long rifle, vous savez, c'était une grande carabine. Bon, et c'est peut-être aussi pour ça que je me suis un peu raté. Enfin, j'ai mis la carabine sur la tempe, j'ai tiré, mais enfin, je me suis retrouvé dans le coma, quoi. Et la balle est passée sur les nerfs optiques, mais pas suffisamment pour me tuer, quoi.
Et vous êtes pas dit, on va y revenir évidemment, vous vous êtes pas dit que vos enfants pourraient vous retrouver dans cet état comme vous-même, vous aviez retrouvé votre maman ?
Ah non, je ne l'ai pas fait chez moi. Je l'ai fait dans un endroit. Je le dis dans le prologue de mon livre. Mm-hmm. Je l'ai fait dans un endroit qui m'appartenait, en campagne, et donc j'ai tiré, en fait, après avoir vu un spectacle magnifique. Il avait gelé, les pâtures étaient légèrement gelées, il y avait un soleil d'automne, c'était magnifique, la vallée était splendide, et puis j'ai regardé, j'ai tiré. Voilà.
Vous avez pensé à qui ? À votre maman, à ce moment-là ?
Non, j'ai pensé à ma femme et mes enfants.
Qu'est-ce que vous leur avez écrit ?
Oh ben que je faisais semblant que ma vie était belle, que j'étais que tout allait bien et que je leur mentais, qu'en fait je leur mentais, j'étais pas l'homme de fer qui croyait que je sois. Enfin, tout le monde, de toute façon, quand les gens l'ont su, tout le monde a été étonné, quoi, parce que je jouais un rôle.
Et c'est ce que vous écriviez dans cette lettre, oui. Vous leur disiez que vous ne pouviez plus jouer ce rôle.
Non, je ne pouvais plus.
Et
surtout, je ne pouvais plus assurer leur
subsistance, leur avenir.
Leur subsistance.
Mais vous pensiez que sans vous, ils auraient pu y arriver.
Oui, parce qu'ils avaient elle était entourée de sa famille qui était assez aisée, quoi. Puis de toute façon, ma femme travaillait aussi, quoi. Donc
vous pensiez que vous étiez un poids.
Oui, tout à fait. J'avais plus aucun espoir. J'avais plus de solution. J'avais vraiment plus de solution.
Vous allez partiellement rater votre suicide, puisque vous allez à la fois tomber dans le coma et puis vous allez quand même vous réveiller. Et quand vous vous réveillez, vous êtes totalement plongé dans le noir.
Oui, totalement plongé dans le noir. Oui, je me suis réveillé au CHR de Lille, aux urgences, quoi, en fait.
Combien de temps après l'acte?
Une journée, quoi, en fait. Une journée après, quoi, en fait.
À votre chevet, il y a votre femme ?
Non, j'étais seul et ma femme devait s'occuper des enfants, quoi. Ouais. Il y avait une intervention d'un chasseur qui passait là dans la campagne et puis qui a vu la voiture, il m'a vu, il a appelé les secours, quoi. J'étais transporté en hélicoptère, je crois.
Oui, c'est ça. C'est ça que j'ai oublié de préciser. Vous vous êtes donné la mort loin de chez vous, dans une campagne que vous connaissiez.
Oui.
Et après avoir vu un superbe paysage, vous vous êtes dit que c'était le moment. Et donc votre femme a pris connaissance de la lettre au moment du suicide.
Oui, bien sûr.
Et quand vous vous réveillez, vous êtes plongé dans le noir. Et là, c'est quoi ? C'est la peur qui vous empare ? Vous vous rappelez exactement ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe ?
Non, je ne me souviens. Je ne me souviens de rien. Bon, j'imagine que je sais que je me suis mis une balle dans la tête, mais je ne me souviens de rien. C'est ce qu'on appelle le choc
traumatique, oui, post-traumatique.
Oui, le choc traumatique. Je ne me souviens de rien. Et quand j'étais au CHR de Lille, j'ai de vagues souvenirs, quoi. Il a fallu un bon bout de temps pour que je me rende compte de ce qui se passait, quoi, en fait.
Les médecins vous ont dit que vous aviez été retrouvé visiblement avec une balle que vous étiez donnée administrée.
Oui,
ils vous l'ont dit. Vous êtes rappelé, oui.
Oui, ça, je me suis rappelé. Mais enfin, bon, j'ai mis quelques mois pour revoir la scène. Je ne m'en souvenais plus, j'ai revu ce spectacle magnifique. Enfin, et donc, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que peut-être étonnant et peut-être chanceux, c'est le chirurgien qui est venu me voir, quand il m'a dit que j'étais aveugle et que, visiblement, il n'y aurait pas d'espoir, en fait, pour recouvrer la vue. Il me l'annonce et je lui aurais dit à l'époque, bon, j'étais encore semi-comateux, je lui aurais dit, et alors, qu'est-ce que ça peut faire ? Alors, peut-être que je lui ai dit ça, tout simplement parce que de toute façon, si j'étais aveugle, c'était de ma faute, quoi, en fait. Et ça a été peut-être quelque chose de magnifique, c'est que ma cécité, je l'ai acceptée immédiatement.
Comment vous l'expliquez ?
Peut-être que ce soit le fait que de ma faute, que ce soit le fait que je me sois foutu une balle dans la tête et que.
Oui, mais vous n'êtes pas dit je me suis raté, j'aurais mieux fait. Vous étiez dans un tel état de vouloir disparaître de cette terre. Vous vous êtes pas dit je me suis raté.
Oui, c'est quand même. Je me suis dit bon, je me suis raté, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais envie de redire. Mais en fait, voilà, le fait d'être aveugle. bah, ça m'a libéré de mes dettes, ça m'a libéré de pas mal de choses, ça m'a libéré. Puis en fait, surtout...
Vous vous êtes dit, on n'attendra plus rien de moi.
Oui. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc... par contre, ma femme, plutôt que de m'accompagner, elle m'a abandonné, quoi, en fait. Elle a demandé le divorce. Alors, je ne lui en veux pas.
Ouais. Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Qu'est-ce qu'elle vous a dit avant de demander le divorce ? Vous avez eu une explication avec elle ? Elle vous en a voulu d'abord d'avoir attenté à vos jours ?
Oui, c'est ça. C'est ça, que d'attendre à mes jours, de les avoir abandonnés, quoi, en fait.
Elle n'avait donc pas compris ce qui s'était passé ? Elle connaissait votre histoire ? Elle savait ce que vous aviez vécu quand vous étiez jeune ? Oui.
Bien sûr. Et de toute façon, je lui avais... fait une longue lettre. Je me souviens, j'ai mis plus de 2 heures pour la rédiger, cette lettre. Et donc, je lui avais dit tout ça, quoi. Et alors, avec le recul, je me dis que on m'a épousé pour ce que je représentais, pas pour ce que j'étais. C'est un petit peu dur ce que je dis, mais je le pense, parce que de toute façon... J'étais abandonné à ce moment-là. Bon, mais je ne lui en veux pas.
En même temps, vous ne lui avez montré... Enfin, je ne sais pas ce que vous l'aviez montré quand elle vous avait épousé, quand elle vous a connu, mais vous avez montré cet homme fort, cet homme cet homme qui était... Et donc vous-même, vous jouiez un rôle qui n'était pas le vôtre. Donc peut-être que, voilà, elle a aimé celui que vous lui avez montré, et pas celui que vous étiez, effectivement, parce que c'est pas celui qu'elle avait connu.
C'est vrai. Mais de toute façon, je lui en veux pas. Et même à la limite, avec le recul, je la remercie. Je la remercie maintenant, parce que si j'étais resté dans le foyer, je serais derrière elle. Et le fait qu'elle me quitte,
vous a allégé, oui. Vous n'êtes pas dit, j'ajoute encore au poids ce que ce qui était la raison pour laquelle vous vouliez quitter cette terre. Vous ne vouliez plus être un poids. Et donc là, vous vous êtes dit, si elle était restée, j'aurais été un poids.
Oui, voilà, j'aurais été un poids. Et puis, c'est tout, je me suis retrouvé seul. Il a fallu que je me batte. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai accepté cette cité immédiatement, mais vraiment immédiatement.
Renouveau. Vous vous êtes dit, je vais enfin être celui que je peux être. Parce qu'il y a le sens de le regarder, de voir. C'est-à-dire qu'on ne vous voit plus. Enfin, on vous voit, mais vous ne le voyez plus ce qu'on voit, en fait. Donc, il n'y avait plus ce sentiment, finalement, ce miroir.
C'est ça, exactement. J'étais à l'abri de l'apparence aussi.
Oui, c'est ça.
Ça, à l'époque, je ne me rendais pas compte, mais c'est ce que j'écris dans mon livre, c'est que l'apparence ne compte pas quand on est aveugle. Ça, c'est vraiment génial. Mmh. Je suis devenu aveugle. Au bon moment, s'il y a un bon moment pour être aveugle. En fait, c'était en pleine explosion de l'informatique, et donc Internet existait à peine, je suis allé très rapidement, j'ai très rapidement trouvé un centre d'éducation au handicap à Marly-le-Roi. Je pense que pas mal de déficients visuels le connaissent, peut-être les gens qui nous écoutent. Mmh. Et ça a été vraiment une libération, parce que pendant 6 mois, j'ai appris à faire avec ma cécité. J'ai appris...
Comme un bébé qui apprend à marcher, à déglutir.
Exactement. C'est ce que j'ai écrit aussi dans le prologue. Je vais tout réapprendre. À manger, à boire, à penser et à marcher, quoi, en fait.
Voilà. Et comment vous avez fait matériellement ? Parce que vous réveillez de ce coma, votre femme finalement va vous quitter, vos enfants, on va en dire un mot, vous allez nous dire un petit peu ce qu'il en est, mais comment matériellement vous faites ? Vous ne gagnez plus votre vie, comment vous faites ?
Alors justement, dans un premier temps, je suis en psychiatrie, puisque de toute façon, après une tentative de suicide, on met en psychiatrie. Et ensuite, j'ai été mis dans un foyer de vie d'aveugle près de Valenciennes. Bon, en fait, c'était un foyer de grabataire, quoi, en fait. Hein. Et quand même, à ce moment-là, J'avais déjà des allocations, donc j'arrivais à subvenir à mes besoins, à payer un petit peu ce foyer. Mmh. Et puis, quand je suis arrivé au centre de Marly, le médecin, j'ai eu en fait la visite de tout ce que je pouvais prétendre. Et à la fin de la visite, alors c'est quand même ma femme m'y avait accompagné. Hein. C'était qu'elle avait conduit là-bas. Mm-hmm. Et donc le médecin me demande je crois que vous pouvez rentrer. Vous avez les capacités pour rentrer dans le centre. Par contre, je vois que vous êtes habité dans un foyer. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai dit, ma femme ne peut pas me prendre en charge, j'ai des enfants. Et je peux la faire venir. Elle vient, elle me dit, je ne peux pas, en ce moment, je ne peux pas recevoir Jean-Louis, je ne peux pas. Et moi, je me suis tourné vers elle, je dis, ne dis pas ça. Dis que c'est fini, que c'est terminé. Et en pleurs, elle me dit, oui, effectivement, je demande le divorce. Alors, le médecin demande à ma femme de sortir. Et je me souviens toujours de ce moment, parce qu'il a été magique aussi. Elle m'a dit, écoutez, monsieur, il va falloir que vous trouviez un foyer, pas une habitation. Alors, je lui ai dit, mais écoutez, docteur, j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre de devoir demander. Ah, il me dit, oui, monsieur Herbert. J'ai dit mon nom.
C'est pas grave, Jean-Louis. Alors,
ouais, monsieur, savoir demander, c'est aussi un gage d'autonomie. Et là, ça a été foudroyant. C'est comme si j'avais eu un uppercut, quoi, là. J'ai dit, j'ai compris. Et le lendemain, dans le foyer, je remuais ciel et terre pour trouver un logement. Et puis je l'ai trouvé au bout de près d'un mois, quoi, en fait. Bon, là, j'ai quand même eu de la chance. J'ai eu quand même des amis qui m'ont aidé, quoi. Donc là, ça va, ça allait. Donc,
oui, c'est ça. Vous n'avez pas perdu totalement le cercle social que vous aviez. Vous aviez vos sœurs, en tout cas votre sœur aînée. Vous disiez que vous avez gardé le lien.
Oui, j'avais encore mes sœurs qui m'épaulaient bien, enfin qui s'occupaient un peu.
Financièrement, votre père, vous avez laissé un peu d'argent, vous avez laissé
Non.
Vous n'aviez quoi, pas aucun bien immobilier, aucun bien personnel.
Non, j'avais aucun bien, rien du tout.
D'accord.
Donc je vivais avec mes revenus sociaux, quoi, en fait.
Oui, la location à des handicapés, oui.
Oui, c'est ça.
Et, puis, et vos enfants, alors ? Vos enfants étaient jeunes, vous disiez qu'ils avaient quoi, 5 ans, 6 ans ?
C'est ça, oui. Et une d'un an, quoi, en fait.
D'accord. Et du coup, vos 3 enfants, vous avez pu garder le contact quand vous êtes devenu aveugle et après être sorti du foyer ?
Oui, j'ai toujours eu des contacts. Ça a été difficile. Un jour, avec ma femme, je dis, mais il faudrait peut-être quand même que je leur dise l'origine de ma cécité, parce qu'au début, on leur avait dit que c'était un accident, quoi, en fait. Mmh. Donc, tant bien que mal, je leur ai dit, parce que j'avais peur qu'ils le sachent.
Autour d'eux, par d'autres personnes, en tout cas. Ouais.
Oui, mmh. C'est ça, par des paroles un petit peu. Et donc, je leur ai dit, ça les a pas trop choqués à l'époque. Et puis en fait, ils étaient contents de. Je les avais évidemment un week-end sur deux, j'assumais.
Vous arriviez vraiment à être autonome, vous occuper de vos enfants en bas âge, avoir un appartement, vous faire votre café le matin, s'occuper de vous, cuisiner. Vous aviez, mais comment vous avez, c'est en foyer, vous avez.
Ah oui, bien sûr.
Après cette autonomie, oui.
Ah oui. Oui, c'est effectivement, c'est à Marly-le-Roi. Je vous dis, j'ai vraiment tout appris là-bas, Marly-le-Roi. Tout appris. Sans Marly-le-Roi, je ne suis pas en train de vous parler.
Et pour vous déplacer, vous avez une canne ?
Oui, j'ai une canne blanche.
Ouais.
Mmh. Et j'ai appris les techniques. Je l'écris beaucoup dans mon livre.
Et le braille, vous pouvez en informatique ? Non, pas le. Vous n'avez pas forcément appris le braille. Et l'informatique ?
Alors, en fait, j'ai appris le braille, je sais le lire, mais je le lis accidentelle. Comme c'est une cécité accidentelle, j'ai pas pu. En fait, je vous le dis très mal, en fait. Hein. Et effectivement, l'informatique, ça m'a été d'un secours énorme, quoi, en fait. L'informatique, c'est vous avez exactement le même ordinateur, le même écran, mais
c'est le clavier qui change, ouais.
Alors le clavier ne change pas, c'est un clavier AZERTY, tout à fait comme
ouais.
Et en fait, il y a qu'une synthèse vocale qui vous dit. Qui vous dit ce que vous tapez. Par exemple, si je tape bonjour, il va me dire B-O-N-J-O-U-R, qu'en fait. Hein. Et puis, surtout, il va me dire ce qu'il y a à l'écran.
Vos doigts pianotent parce qu'il a retrouvé comme si on apprenait la dactylo, quoi.
Voilà, c'est ça. J'ai appris à Marly-le-Roi aussi, j'ai appris la dactylo. Et puis, évidemment, je tape comme une vraie dactylo maintenant.
C'est comme ça que vous avez écrit votre livre, justement. On en parle
de
ce livre que vous avez écrit, qui raconte toute cette histoire. Aveugle, mode d'emploi, c'est l'édition de l'Harmattan. Pourquoi c'est mode ça. D'emploi? Parce que c'est quoi? C'est votre désir de vivre qui a décuplé depuis oui. votre suicide?
Oui, c'est ça. Et puis, en fait, je me suis vraiment passionné sur l'autonomie. L'autonomie, pour moi, c'est quelque chose de très important. Je sais ce que c'est. Hein, puisque dépendre des autres, c'est pas toujours évident. Et dans le livre, j'ai fait ce serment d'allégeance. Je dis, je ferai ce que je veux, quand je veux et comme je veux. Et donc, à Marly-le-Roi, j'avais pratiquement pas trouvé de, par exemple, vous savez, un appareil pour noter les coordonnées, prendre les rendez-vous et tout ça. J'avais pas trouvé.
Oui.
Un agenda, oui, c'est ça, un agenda. Et par chance, alors ça c'est aussi, j'ai quand même beaucoup eu de chance dans ma société, parce que par chance, quand je suis sorti de Marly-le-Roi, eh bien c'est tout, j'avais tous les outils pour être autonome.
Mm-hmm.
Ah oui, mais voilà, là j'étais largué dans l'arène, quoi, c'est ce que je dis dans le livre. Et donc, par chance, le lendemain matin, je regarde, j'écoute la télé, et quelqu'un, c'était une émission sur, à l'époque c'était Antenne 2, ou je sais plus, la deuxième, et il présente un appareil à commande vocale, et à restitution vocale. Mmh. C'est magnifique, ça. Alors je téléphone immédiatement à Antenne 2, et puis j'ai les coordonnées, je téléphone à la société, l'appareil était dédié pour les voyants, quoi, en fait. Hein.
Et vous l'avez détourné à votre profit.
Oui, et donc, vu l'intérêt que j'avais sur ce produit, je vous dis, ça faisait 2 jours que j'étais sorti de Marly-le-Roi. Le gars me dit, mais c'est peut-être intéressant, on pourrait peut-être essayer de le développer pour les déficients visuels. J'avais la chance, alors j'ai une société qui était à Nice, j'avais la chance d'avoir un cousin à Cannes. Le jour même, je prenais l'avion. Et on venait me chercher à Cannes, et le lendemain, j'étais à Nice.
La frénésie de vivre que vous n'aviez pas eue toutes ces années, oui. Vous l'avez retrouvée avec cette volonté en plus de créer. Alors, vous avez fait quelque chose avec cette entreprise, finalement?
Alors, oui, ils m'ont employé. Ils m'ont employé.
Génial.
Et en fait, je l'ai développé. Enfin, je ne l'ai pas développé. Moi, je n'avais pas les compétences. Mais avec les techniciens, on a modifié des choses, et j'ai aussi fait un mode d'emploi. Et donc ça a commencé comme ça et très facilement. Bah alors donc j'ai sillonné toute la France pour faire les présentations de ce produit. Ensuite j'ai trouvé un autre produit, j'ai trouvé une machine à lire. Donc pendant plusieurs années
vous avez travaillé de nouveau et vous avez travaillé grâce à votre handicap, j'ai envie de dire. On est 30 ans plus tard aujourd'hui, 32 ans même plus tard. Comment vont vos enfants?
Oh, ils vont très bien. Il y a eu une petite période de silence, quoi, d'incompréhension. Et là, j'ai encore eu une difficulté avec un de mes enfants. Et nous a rapprochés. Parce que, en fait, ils avaient une version de ma cécité qui n'était peut-être pas, la bonne, la vraie, quoi, en fait. Et ça, ils l'ont bien compris, je l'explique bien dans le prologue. Et ça nous a réunis, quoi. C'est clair.
Quel incroyable témoignage, Jean-Louis. Quel incroyable témoignage sur Europe 1 ce soir. Je rappelle le livre, du coup, le livre qui célèbre un peu votre renaissance, qui s'appelle Aveugle, mode d'emploi, qui donne la pêche à tous ceux qui un jour peuvent être confrontés, quelles que soient les raisons, à une cécité. Voilà, il redonne totalement la pêche. Aveugle, mode d'emploi, c'est aux éditions de l'Harmattan. Merci infiniment, Jean-Louis. On a parlé quasiment une heure ensemble. Merci infiniment.
Merci beaucoup.
Merci infiniment d'avoir été avec nous pour ouvrir cette antenne sur Europe 1.
Merci aussi beaucoup, Roland. Merci à vous.
Donnez-nous de vos nouvelles, hein.
Sans problème.
Et continuez sur cette lancée. Ah, vous ne nous avez pas dit, vous avez rencontré quelqu'un d'autre, vous avez continué votre vie?
Oui, j'ai une compagne. J'ai une compagne, tout à fait. Et tout va très bien.
L'amour, toujours. On aime l'amour.
Et je l'embrasse parce que...
Et nous aussi.
Je l'embrasse, Nadine, voilà.
Bon, on embrasse tous Nadine. Merci beaucoup, Jean-Louis.
Merci.
À bientôt.
À bientôt, au revoir.
La Libre Antenne dès ce soir en direct avec Valérie Darmon qui nous donne rendez-vous de 22h30 à 1h pour la joindre 01 80 20 39 21. N'hésitez pas à témoigner, à partager vos expériences de vie, vos histoires d'amour ou d'amitié, vos peines de cœur, vos aventures sentimentales. Et puis, on vous rappellera, bien sûr, 01 80 20 39 21 pour passer en direct ce soir dans la Libre Antenne. Dans un instant, c'est le Studio des Légendes de Jacques Vendroux qui a reçu ce vendredi Alain Giresse pour rendre hommage à Roland Courbis qui nous a quittés en début de semaine. Il y aura aussi Souleymane Diawara, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille et international sénégalais, pour évoquer la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu donc demain dimanche. Le Studio des Légendes, c'est donc juste après Sir Duke, Stevie Wonder, un iconique d'Europe 1. Music is a world within itself. The language we all understand, with an equal opportunity for all to sing, dance, and clap their hands. Well, just because a record has a groove, don't make it in the groove. But you can tell right away, left to A, when the people start to move. Fire.